Do things for ourselves. Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada, none of this. Six gunning this, brother running this, Buffalo Soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the by. Watch your step, we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call?
Not the GB.
Now who you gon' call?
G-W-E-G.
If you ever riff with people wanna bust,
break out
before you get bum rushed at
the Wild Wild West.
When I roll into
the Wild Wild West.
When I stroll into
the Wild Wild West.
When I bounce into
the Wild Wild West.
Cisco, Cisco. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapper down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kinda poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you lip at, kid? Who that is? A mean brother, bad for your health. Looking damn good though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't tryna hear that. Tryna bring down me, the champion. When y'all clowns go see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild,
wild, wild, wild
west. When I roll into
the wild, wild west.
When I stroll into
the
wild, wild west. When I bounce into
the wild, wild west. We're going straight.
Just for fun, son, up to sundown, rolling around, see where the bad guys are to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the Wild Wild West. When I roll into
the Wild Wild West,
when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into
the Wild Wild West.
Loneliness was ours. to pray. Pray how the time has come.
Oh, pray. You only feed your dreams of freedom.
Ready to kick some ass. chains for him. Free love with two, chains for him. Chains for him. Free love with two chains for him. Free love with two chains for him. Free love, love, free with two, with chains for him. Chains for him.
Understand the thing, understand the concept, the concept, the understand the thing, understand the concept, the concept.
Quelle heure est-il ?
Il est 1h.
Quelle heure est-il ?
Il est 2h. Quelle heure est-il ?
Il est 3h.
Quelle heure est-il ?
Quelle heure est-il ?
Il est 4h.
Il est 4h.
Quelle heure est-il ?
Il est 5h. Quelle heure est-il ? Il est 6h.
Quelle heure est-il ?
Il est 7h.
Quelle heure est-il ? Il est 8h. Quelle heure est-il ?
Il est 9h. Quelle heure est-il ?
Il est 11h.
11h.
Quelle heure est-il ?
Il est l'heure qu'il était hier à la même heure.
In the socket and fully charged, A disco rocket goes straight to your heart. In the socket and fully charged. A disco rocket goes straight to your heart. In the socket and fully charged. A disco rocket goes straight to your heart. In the socket and fully charged. A disco rocket goes straight to your heart. In the socket. A disco rocket. In the socket.
Is there something in your eye, or are you just sad to see me? Is your goldfish still alive? Does your girlfriend wanna meet me?
whatever comes up comes out. We don't put our hands over our mouth. And whatever comes up comes out. We don't put our hands over our mouth. Whatever comes up comes out.
Peace, Mr. Bassman, let on.
Real shit right here. I'm beautiful.
Hey yo, depending on the day and depending on what I ate, I'm anywhere from 20 to 35 pounds overweight. I got red eyes and one of them's lazy, and they both squint when the sun shines, so I look crazy. I'm albino, man, I know I'm pink and pale, and I'm hairy as hell everywhere but fingernails. I shave a cranium that ain't quite shaped right. Face type shiny, I stay up and write late nights. My wardrobe is jeans and faded shirts, a mixture of what I like and what I wear to work. I'm not mean and got a neck full of razor bumps. I'm not the classic profile of what the ladies want. You might think I'm depressed as can be, but when I look in the mirror, I see sexy ass me. And if that's something you can't respect, then that's peace. My life's better without you, actually. To everyone out there who's a little different, I say, damn a magazine, these is God's fingerprints. You can call me ugly, but can't take nothing from me. I am what I am, doctor, you ain't gotta love me. If you would please turn in your Bibles to Beauty Tips According to Forrest Whitaker, in the third chapter of the third line. Brother Ali, would you please read to the choir for me, son? I'ma be alright, you ain't gotta be my friend, and you ain't gotta love me. And I'ma be okay, you would probably bore me anyway. You ain't gotta love me. And I'ma be alright, you ain't gotta be my friend, and you ain't gotta love me. And I'ma be okay, you would probably bore me anyway. You ain't gotta love me. And I'ma be alright. You ain't gotta be my friend, and I you ain't gotta love me. And I'ma be okay. You would probably bore me anyway. You ain't gotta love me. La 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 la
la la la la la.
Bound within, what matter is it made of? second to none. Thank you. Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. On ne manque pas d'images d'effondrement. La science-fiction nous fournit une multitude de scénarios de fin du monde possibles. Mais il n'y a même plus besoin d'aller au cinéma, il suffit de regarder le JT. Ces images de pluies torrentielles, de forêts qui s'embrasent ou de cyclones dévastateurs nourrissent un imaginaire fataliste, nous donnant le sentiment qu'il est déjà trop tard pour échapper à la catastrophe. Et si, pour calmer notre éco-anxiété et renouer avec un avenir soutenable, la solution demandait moins de l'imagination que d'ouvrir la malle du grenier pour dépoussiérer les vieilles recettes de grand-mère? Cédric Durand est économiste à l'Université de Genève. Dans le livre qu'il a coécrit avec Razmik Kecheyan, « Comment bifurquer les principes de la planification écologique », il revient sur l'histoire de cette notion et esquisse les contours d'un mode de développement qui ne serait plus structuré par la rentabilité et le marché, mais par les besoins. Peut-on faire le tri entre les désirs auxquels il faudra renoncer et les besoins qu'il faudra satisfaire? À quoi ressemblerait ce gouvernement par les besoins? Comment bifurquer? Cet épisode a été tourné en public à la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival Et Maintenant. Alors vous dessinez les contours, je disais, d'une bifurcation, je trouve que le mot est très joli. Souvent quand on parle de la crise climatique, on parle plutôt de transition. C'est quoi la différence entre les deux ?
Eh bien fondamentalement, la différence entre transition et bifurcation est la suivante. La transition, c'est finalement garder la société telle qu'elle est aujourd'hui, les mêmes systèmes de transport, les mêmes systèmes d'habitation, les mêmes systèmes d'alimentation, et tout simplement de les verdir. Donc essentiellement, lorsqu'on parle de transition, on parle beaucoup de transition énergétique, et il s'agit surtout de décarbonation. Or, la crise écologique n'est pas seulement énergétique, elle est bien sûr liée au changement climatique, aux émissions de CO2, mais il y a bien d'autres dimensions. Effondrement de la biodiversité, dérèglement des systèmes biochimiques. Et donc, il faut bien prendre en compte l'ensemble du métabolisme entre l'humanité et la nature. Et donc, la bifurcation, elle veut dire, bien, finalement, ce qu'il va falloir discuter, c'est nos modes de vie et s'organiser pour transformer nos modes de vie et non pas seulement verdir tel ou tel process.
L'un des grands penseurs de la planification écologique qui a inspiré Cédric Durand, c'est Otto Neurath, un économiste et philosophe des sciences autrichien qui a écrit au début du XXe siècle.
Otto Neurath, c'est un praticien. C'était d'abord un économiste pendant la Première Guerre mondiale qui travaillait au ministère de la Guerre en Autriche. Et donc, son problème à lui, c'était de dire « Mais écoutez, regardez, lorsqu'on a dû organiser l'économie dans ce contexte-là, c'était une économie où finalement la monnaie n'était pas très importante. Ce qui était important, c'était où vont les ressources pour l'alimentation, comment on fait pour construire des armes, etc. » Et donc, il a mis en avant cette idée qu'il y avait une forme de possibilité d'organiser l'économie en nature, c'est-à-dire pas par le calcul monétaire, mais en disant qualitativement, voilà, les choses que l'on doit faire. Mais il ne s'est pas arrêté là, Otto Neurath, parce qu'il avait au fond cette intuition qui est très importante pour nous dans le livre, c'est que la planification, c'est l'articulation, toujours compliquée, mais essentielle, de deux dimensions. D'une part, la dimension démocratique. Il y a des choix à faire, c'est ça d'abord planifier, c'est définir des priorités et choisir. Mais il y a aussi une autre dimension, qui est une dimension plus technique. Il va falloir décider quels sont les mécanismes que l'on va pouvoir mettre en œuvre, quelles sont les ressources qu'on peut avoir. Et il résumait ça d'une formule que je trouve très, très juste, c'est la planification, au fond, c'est la bataille permanente des personnes ordinaires et des technocrates, donc des experts. Bon. Donc c'est cette espèce d'équilibre, voilà l'enjeu de la planification.
Du calcul et de la politique.
Exactement.
Alors vous disiez qu'il avait écrit pendant la Première Guerre mondiale, et même pour lui, la guerre était un fondement d'une nouvelle économie possible. C'est assez contre-intuitif.
C'est-à-dire que lorsque arrive une situation de guerre, c'est un moment où la priorité n'est plus la priorité du développement de l'activité économique. Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu, donc la survie d'une société. Bon, l'économie n'est plus centrale, la politique est au premier rang. Et donc cette idée d'économie de guerre est évidemment quelque chose de très important aussi pour réfléchir aux expériences possibles de planification. On a des exemples très importants dans le contexte de la Première Guerre mondiale, par exemple, en France, à Paris, on a mis en place, à partir de 1916, un rationnement pour l'accès au charbon. Alors pourquoi un rationnement ? Bien parce que il n'y avait pas assez de charbon pour à la fois de fournir les moyens de l'armée et puis il y avait un blocus, c'était très difficile d'avoir accès à cette ressource. Et la situation est devenue tellement difficile que finalement la préfecture a organisé la distribution du charbon en fonction des besoins. Hein, c'est-à-dire que chacun allait à la préfecture, expliquer quelle était la situation de sa famille, et en fonction de cette situation-là, on avait droit à une certaine quantité de charbon. Alors évidemment, c'est quelque chose qui était en fait assez populaire à l'époque, hein, parce que des gens qui auparavant avaient peu de revenus, avaient pas, éventuellement moins de charbon qu'ils n'ont pu en avoir dans le cadre du rationnement. Mais là, l'idée clé, hein, c'est vraiment que à travers le rationnement, à travers finalement cette logique de politisation des besoins, eh bien, on a satisfait hein, à quelque chose qui était conçu comme une nécessité collective. Peut-être une autre manière d'insister sur cette idée, c'est l'idée que, avec la logique du rationnement, avec la logique du gouvernement par les besoins, eh bien, c'est une forme de justice qui se met en œuvre. Et il y a un historien qui s'appelle Edward Thompson qui disait, voilà, on parle dans ce contexte-là d'économie morale. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un jugement de valeur, un jugement moral, dans la distribution des ressources, en l'occurrence, là, le charbon.
Il y a aussi, comme exemple d'intrusion du politique dans le marché, le contrôle des prix qui est pratiqué aussi à ce moment-là. Il y a un autre exemple que vous donnez, alors là, un peu plus tard, qui montre comment, d'un coup, l'économie peut faire des prouesses pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors ça, c'est vraiment extrêmement spectaculaire. Hein. Pendant deux ans, hein, entre 42 et 44, aux États-Unis, il va y avoir aucune production d'automobiles. Hein. Alors, le pays où c'est vraiment le règne de la bagnole, plus de deux décennies après l'essor de la production de masse d'automobiles, on arrête complètement la production d'automobiles. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a les besoins de l'industrie de guerre. Donc là encore, hein, c'est cette idée de mettre au premier plan hein, des besoins prioritaires, jugés politiquement prioritaires, face au fonctionnement habituel de l'économie.
Comme quoi, quand la survie de la société est en jeu, on est capable de faire des choses folles, comme arrêter de produire des voitures, rationner les ressources et les distribuer de manière juste. Ces expériences en période de guerre prouvent que si la volonté politique est là, tout devient possible. Ma génération n'a pas connu la guerre, mais on a fait récemment une expérience un peu proche avec la pandémie, où d'un coup, on a vu aussi que ce qui était censé être impossible devient possible. Finalement, l'argent magique, il y en a. La dette publique, ce n'est plus un problème insurmontable. Donc, on a vu comment, dans ces périodes de crise, la logique des besoins pouvait prendre le dessus sur la logique des profits. Pour les masques, les ventilateurs, on ne se posait plus la question de combien ça coûte, mais juste de combien on a besoin, quelles ressources on a pour pouvoir les produire au plus vite. Donc, on voit bien comment ces crises ramènent à la question des besoins et des ressources. Mais ce qui est intéressant quand on lit votre livre, c'est que même en dehors des périodes de crise, en fait, notre économie n'est pas une économie de marché pur. On a déjà de la planification.
Oui, on a beaucoup de formes de planification qui existent. Par exemple, vous parlez du contrôle des prix. Un des exemples de contrôle des prix très fréquent, c'est le timbre. Tout simplement, le prix du timbre, il est fixé politiquement, non pas en fonction hein, du coût réel de l'envoi d'une lettre, mais en fonction d'une politique territoriale qui fait que envoyer une lettre n'importe où sur le territoire national va coûter la même chose, hein, que ce soit dans le département d'à côté ou à l'autre bout du pays. Et donc, cette priorité donnée à la cohésion nationale se manifeste à travers le contrôle des prix. Il y a aussi un autre élément de planification très important dans nos économies, parmi d'autres, hein, c'est la question des services publics. Hein. Lorsqu'on se pose la question de la scolarisation des enfants, on part des besoins du nombre d'enfants qu'il va falloir scolariser. Et ensuite, on va bien financer des postes de profs, des écoles. On doit fournir l'accès à l'école pour l'ensemble des enfants du pays. On doit fournir des soins pour l'ensemble des personnes du pays. Donc, cette logique de services publics est une logique de gouvernement par les besoins, partielle, imparfaite aujourd'hui, bien sûr, mais néanmoins complètement différente de la logique du marché.
Donc, des processus de centralisation, de planification, on en a déjà dans notre économie, mais vous, pour aller plus loin, vous dites, ce qui est nécessaire maintenant, c'est la socialisation de l'investissement privé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, au juste, ça ?
Oui, fondamentalement, la socialisation de l'investissement, c'est finalement rendre à l'espace démocratique le devenir de mode d'existence. L'investissement, c'est quoi ? C'est eh bien construire des infrastructures, construire des moyens de production qui vont finalement déterminer la manière dont, matériellement, on va vivre dans la période qui vient. Et aujourd'hui, cette décision d'investissement est essentiellement le fruit de décisions privées, c'est-à-dire des entrepreneurs, des grandes firmes. C'est eux qui contrôlent l'essentiel de l'investissement. Alors, socialiser l'investissement, eh bien, fondamentalement, ça veut dire finalement se donner les moyens de délibérer, non pas sur le détail des investissements, mais sur les grandes orientations de l'investissement. Hein. Est-ce qu'on veut développer les transports en commun plutôt que l'industrie automobile ? Est-ce qu'on veut développer une agriculture qui va être intensive en main-d'œuvre, mais plus respectueuse de l'environnement, ou alors est-ce qu'on va développer une agriculture qui va plutôt aller du côté de la chimie. Donc ces choix-là, eh bien, ils sont déterminés par les investissements qui sont faits. Et donc, la socialisation de l'investissement, c'est fondamentalement remettre dans le débat démocratique la question des investissements et pas laisser le filtre du profit hein, décider de la manière dont il faut allouer la préparation de l'avenir.
Ce terme de filtre, Cédric Durand l'emprunte à l'économiste Michel Husson, qui le formulait dans un article de 1991 comme ceci. Entre les besoins sociaux et ce qui est finalement produit, le capitalisme intercale un filtre, celui de la rentabilité. La planification a pour fonction de retirer ce filtre afin d'orienter l'économie en fonction des besoins. Concrètement, ça peut se traduire par la nationalisation des entreprises stratégiques, on en a eu une version extrême en Union soviétique. Mais ça peut aussi passer par une politique du crédit. C'est ce qu'on a vu par exemple en Corée du Sud après le coup d'état militaire de 1961. Le dictateur Park Chung-hee a mis en place une politique d'industrialisation accélérée, au cours de laquelle les banques publiques prêtaient seulement aux entreprises qui investissaient dans le cadre des grandes orientations fixées par l'État. Aussi bien dans l'Union soviétique communiste que dans la Corée du Sud capitaliste, ces politiques ont permis de moderniser les économies de manière efficace, mais sur un mode très autoritaire. Dans le livre, Cédric Durand parle aussi d'expériences plus intéressantes, car plus démocratiques, impliquant largement les travailleurs eux-mêmes, notamment pendant les années 70 en Suède, avec le social-démocrate Rudolf Meiner, ou au Chili, sous la présidence du socialiste Salvador Allende. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France a créé un commissariat général du plan pour reconstruire le pays.
Dans le relèvement de notre pays, le plan est probablement la pièce essentielle. Quelle que soit l'évolution des circonstances, nous aurons besoin de plus de charbon, d'électricité, d'acier, de ciment, de machines agricoles, de moyens de transport. C'est pourquoi vont être engagés immédiatement et pour 4 ans les programmes fermes de ces 6 activités de base. La mise à exécution du plan fera sentir ses effets dès cette année et après 4 ans d'efforts en 1950, la France aura enfin la grande industrie lourde qui lui a jusqu'à présent manqué, et notamment d'une manière si tragique en 1940. Alors, tous les Français éprouveront dans leur vie de chaque jour que la France est redevenue un pays moderne dans un monde en progrès.
Donc la planification summum de la modernité, en fait. Quel a été le bilan?
L'idée de la planification telle qu'elle se déploie dans sa période glorieuse, pourrait-on dire, c'est justement celle des 30 glorieuses d'un certain point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue productiviste. Et l'archive que vous avez montrée l'explique très bien. Il s'agit vraiment de créer les conditions de base d'une modernisation de l'économie et de la société française. Il s'agit de loger les Français. Il y a de très nombreuses personnes qui sont mal logées à cette époque-là ou qui n'ont pas de logement. La question de la souveraineté alimentaire est aussi urgente. Du point de vue de l'industrie, la France est considérée comme un pays arriéré. Il s'agit de se rattraper par rapport aux États-Unis.